Voici une question qui nous fera tous réfléchir. Comment Dieu démontre-t-il qu'il gouverne l'univers? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui nous fera connaître la puissance et la souveraineté de Dieu aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je crois qu'on va recevoir de bonnes mises en garde de la part de Dieu au cours de l'émission d'aujourd'hui. Et nous savons tous qu'il nous les donne pour notre bien parce qu'il nous aime. Alors voici les questions qu'on va poser au livre d'Ézéchiel. Est-ce que Dieu est le seul vrai Dieu? Est-ce que les prophéties de la Bible s'accomplissent toutes? Est-ce que l'on peut s'appuyer sur les hommes ou sur une nation pour notre sécurité? Qui contrôle les nations de la terre? Qu'est-ce qui se produit lorsque quelqu'un ou quelque chose remplace Dieu dans notre cœur? Quand le peuple de Dieu s'éloigne de lui, comment Dieu démontre-t-il qu'il gouverne l'univers? Comment pouvons-nous savoir ce que Dieu attend de nous? Restez avec nous, le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est prêt à répondre à chacune de nos questions. Mais premièrement, prions. Seigneur, c'est bon de te prier, de savoir que tu nous entends. Tu es tellement bon. Merci pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci pour ton Fils Jésus que tu as donné en rançon pour nos péchés. Enseigne-nous aujourd'hui. Apprends-nous à mieux t'aimer, à mieux te connaître. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons examiné les prophéties au sujet de Tyr et de Sidon. Nous avons vu que c'est l'orgueil de Tyr qui a entraîné sa chute, tout comme l'orgueil a causé la chute de Petra, une ville édomite taillée dans le roc. Nous avons constaté que la description de Tyr et de Babylone correspond à des villes contemporaines telles Londres, Paris, New York et Los Angeles. Notre monde contemporain sera jugé comme l'ont été Tyr et Babylone. Les richesses ne sont pas mal en soi, mais malheureusement, beaucoup de personnes en font leur idole. Dieu a annoncé la condamnation du prince de Tyr ainsi que du roi de Tyr. Le prince de Tyr était un homme qui se prenait pour Dieu, mais derrière lui se cachait le prince de la puissance de l'air, Satan lui-même. Le chapitre 28 du livre d'Ézéchiel nous donne des renseignements au sujet de l'origine de Satan. Il était un être beau, parfait et très sage. Le concept de Satan, le représentant comme un être avec des cornes, une queue fourchue et des sabots, tire son origine de la mythologie grecque. Cette description est celle du dieu Pan, le dieu du plaisir et du vin. Les Romains appelaient ce dieu Bacchus. Satan est tombé car il a voulu détrôner Dieu. Son orgueil l'a perdu. Le prince de Tyr était le vice-roi de Satan et une image de l'Antéchrist. Aujourd'hui, nous tournons nos regards vers l'Égypte alors que nous allons examiner les prophéties d'Ézéchiel au sujet de ce pays. L'Égypte était une grande nation qui n'avait jamais été dévastée. Elle avait réussi à protéger l'intégrité de son territoire au cours des temps. C'était une des nations les plus anciennes. Elle n'avait pas besoin de s'entourer de murailles puisque le désert qui l'entourait était une excellente protection. La seule porte d'entrée était la vallée du Nil. Pour se protéger, l'Égypte n'avait qu'à bien fortifier l'entrée de cette vallée. Les anciennes villes d'Égypte n'étaient pas fortifiées car ce n'était pas nécessaire de prendre une telle mesure. Dieu annonce aux Égyptiens qu'ils iront en captivité pendant 40 ans. Chers amis, débutons notre lecture d'Ézéchiel, chapitre 29, versets 1 et 2. La dixième année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Dieu se prononce fermement contre l'Égypte. C'est cette nation qui avait réduit son peuple à l'esclavage et qui l'avait initié à l'idolâtrie. L'Égypte avait été une aiguille dans la chair d'Israël pendant de nombreuses années. Cependant, Israël se tournait souvent vers l'Égypte pour avoir du secours contre ses ennemis. Le peuple de Dieu avait tendance à s'appuyer sur l'Égypte. Dieu annonce maintenant la destruction de la nation. Verset 3. Parle, et tu diras. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, « Mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. » Dieu est le seul vrai Dieu vivant. Le crocodile semble être le grand dragon ou un monstre marin. Pharaon est comparé à un crocodile qui défend son territoire dans le Nil, le grand fleuve qui traverse l'Égypte. En fait, l'Égypte vénérait et adorait toutes sortes d'oiseaux, toutes sortes de bêtes et d'insectes. Si vous vous rappelez de l'étude du livre de l'Exode, chapitre 7 à 11, nous avions vu que chaque plaie portait un coup à un dieu que les Égyptiens vénéraient. Bien que les plaies aient été horribles, Dieu a démontré qu'il avait un sens de l'humour par son choix de plaies. Imaginez que vous vénériez Eka, la déesse à tête de grenouille, et qu'un matin vous vous trouviez infesté de grenouilles. Qu'allez-vous faire? Tuez votre déesse? Dieu devait sourire devant cette scène. En ridiculisant les dieux égyptiens, Dieu a démontré qu'il était le vrai Dieu vivant. Le pharaon à qui Dieu s'adresse par son prophète est Ophra. Il est le petit-fils du pharaon Nécho, celui qui tua le roi Josias lors de la bataille de Megiddo. Les rois Joachim, Joachin et Sédécias se sont tournés vers pharaon Ophra lorsque Jérusalem a été assiégée par Nebuchadnezzar sous leur règne respectif. L'armée égyptienne avait monté au nord en passant par la Phénicie, ce qui a forcé les Babyloniens à lever le siège de Jérusalem. Le prophète Jérémie a annoncé la condamnation de pharaon Ophra. L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, dit, « Voici, je vais châtier Amon de Nô, Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois, Pharaon et ceux qui se confient en lui. Je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et entre les mains de ses serviteurs. Et après cela, l'Égypte sera habitée comme au jour d'autrefois, dit l'Éternel. » Jérémie, chapitre 46, versets 25 et 26. Les critiques qui aiment s'en prendre à la Bible soulignent le fait que la prophétie de la destruction de l'Égypte ne s'est pas accomplie immédiatement, mais 17 ans plus tard. Cependant, si nous examinons le texte attentivement, nous voyons bien que Ézéchiel ait prononcé la prophétie. Rien n'indique qu'elle devait avoir lieu immédiatement. Le pays a été détruit 17 ans plus tard, comme Dieu l'a annoncé. Versets 6 et 7. Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel, parce qu'ils ont été un soutien de roseau pour la maison d'Israël. Lorsqu'ils t'ont pris dans la main, tu t'es rompu, et tu leur as déchiré toute l'épaule. Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé, et tu as rendu leurs reins immobiles. Tout soutien humain n'est pas fiable. Tout soutien autre que le soutien divin n'est qu'un roseau. Nous ne pouvons pas compter sur les hommes ou sur une nation pour notre sécurité. C'est vers Dieu qu'il faut nous tourner lorsque nous passons par des périodes difficiles. C'est en nous tournant vers Dieu que nous le glorifions. Israël avait terni le nom de Dieu en s'appuyant sur l'Égypte, et Dieu s'est glorifié en montrant la faiblesse de cette nation. Dieu nous a créés afin que nous le glorifions. Il est donc important que nous nous tournions vers notre Dieu Tout-Puissant, omniscient et omniprésent, pour avoir du secours et de l'aide. Notez ce que Dieu annonce au sujet de l'Égypte. Verset 13. « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Au bout de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des peuples où ils auront été dispersés. » Exactement, 17 ans plus tard, Nebuchadnezzar est venu et il a conduit les Égyptiens en captivité. Ils y sont restés pendant 40 ans et non 70 ans comme Israël. Dieu contrôle toutes les nations de la terre. Dieu a déterminé d'avance la longueur de la captivité de l'Égypte et de la captivité d'Israël. Dieu contrôle toutes les nations de la terre. Il a déterminé que Nebuchadnezzar dévasterait l'Égypte ainsi que les villes qu'il frapperait. Verset 14. Je ramènerai les captifs de l'Égypte, je les ramènerai dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine, et là ils formeront un faible royaume. Notez bien le verset suivant, verset 15 d'Ézéchiel chapitre 29. Ce sera le moindre des royaumes, et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations. Je les diminuerai afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. L'Égypte avait été une grande puissance dans le monde ancien. Autant que nous le sachions, depuis le début de l'histoire, l'Égypte a toujours été une nation puissante. Leurs monuments et leurs tombes témoignent que leur civilisation n'avait rien à envier à aucun autre pays. La civilisation grecque a été influencée par l'Égypte. Dieu a dit à ce pays puissant, « Je vais permettre à Nebuchadnezzar de t'envahir. Tu vas aller en captivité pendant 40 ans. Ensuite, tu reviendras dans ton pays, mais tu seras désormais une nation faible qui ne dominera plus sur les autres pays. » C'est exactement ce qui s'est accompli. Verset 16. « Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance. » Il lui rappellera son iniquité quand elle se tournait vers eux, et ils sauront que je suis le Seigneur, l'Éternel. Dieu nous ôte ce qu'il remplace dans notre cœur. Dieu a détruit l'Égypte, le sujet de confiance d'Israël. Malgré les avertissements de Jérémie, le peuple a préféré aller vers l'Égypte que vers Dieu. Si nous nous détournons de Dieu et que nous mettons notre confiance en quelqu'un ou quelque chose d'autre, Dieu nous ôtera notre sujet de confiance. Dieu ne cède jamais sa gloire à un autre. Dieu est un être infini et parfait. Il est le seul digne de recevoir toute la gloire. L'Égypte affaiblie servira de témoin à Israël. Elle lui rappellera que le soutien des hommes n'est absolument pas fiable. Israël et les Égyptiens sauront qui est l'Éternel. Dieu se glorifie toujours en bénissant ceux qui lui sont fidèles et en châtiant ceux qui ternissent son nom en s'appuyant sur la création plutôt que le Créateur. Versets 19 et 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici. Je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte. Il en emportera les richesses, il en prendra les dépouilles, il en pillera le butin, ce sera un salaire pour son armée. Pour prix du service qu'il a fait contre Tyr, je lui donne le pays d'Égypte. Car ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur, l'Éternel. Babylone allait conquérir toutes ces nations, car il était l'instrument de Dieu pour exécuter ses jugements. Tyr, l'Égypte et Israël seraient dévastés. Babylone devint l'empire le plus puissant de son temps. Débutons la lecture d'Ézéchiel chapitre 30, verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ézéchiel répète souvent cette phrase, « Il ne veut pas que nous doutions du fait qu'il parle au nom de Dieu. » Verset 2. « Fils de l'homme, prophétise et dit, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. » Gémissez, malheureux jour. C'est le temps de pleurer, de se lamenter et de porter le deuil. Verset 3. Car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux, ce sera le temps des nations. Un jour nuageux est inhabituel en Égypte. Il tombe très peu de pluie dans cette région du monde. C'est le Nil qui irrigue le pays. En fait, les Égyptiens vénéraient le crocodile du Nil en plus de plusieurs autres bêtes. Nous vivons dans le temps des nations. Elles s'agitent sur tous les continents. Verset 4. L'épée fondra sur l'Égypte, et l'épouvante sera dans l'Éthiopie, quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses, et que ses fondements seront renversés. Parfois, l'Égypte et l'Éthiopie étaient des alliés, mais souvent ils étaient en guerre l'un contre l'autre. certains érudits croient que Moïse, parce qu'il était le fils adoptif de la fille de Pharaon, aurait été le prochain à monter sur le trône d'Égypte, et qu'il a même dirigé une expédition militaire contre l'Éthiopie. Verset 5. L'Éthiopie, Put, Lud, toute l'Arabie, Cub et les fils du pays alliés tomberont avec eux par l'épée. À cette époque, toutes les nations s'étaient alliées, mais elles seront toutes assujetties à Nebuchadnezzar qui régnait sur un territoire très vaste. En fait, il est la tête d'or dans la prophétie de Daniel au sujet des quatre grands royaumes, chapitre 2. Verset 6 d'Ézéchiel, chapitre 30. Ainsi, par l'Éternel, ils tomberont les soutiens de l'Égypte, et l'orgueil de sa force périra. De Migdol à Sienne, ils tomberont par l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Tout comme Israël, ces pays s'étaient tournés vers l'Égypte pour obtenir du secours. Cependant, elles seront toutes jugées. Verset 12. Je mettrai les canaux à sec, je livrerai le pays entre les mains des méchants. Je ravagerai le pays et ce qu'il renferme par la main des étrangers. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Le mot « canot » réfère aux nombreux bras du Nil à son embouchure. Les Égyptiens avaient aussi construit de nombreux canaux d'irrigation. C'est dans cette région estuaire que se trouvait le Goshen, le territoire dans lequel les Israélites se sont établis en arrivant en Égypte. « Je mettrai les canaux à sec, je livrerai le pays entre les mains des méchants. » Plus tard, l'Égypte tomba entre les mains d'Alexandre le Grand, et à sa mort, ses généraux se sont partagés son empire. La reine, Cléopâtre, qui a régné sur l'Égypte, était grecque et non égyptienne. En fait, l'indépendance de l'Égypte hellénistique a pris fin avec la mort de la reine Cléopâtre en l'an 31 avant Jésus-Christ. L'Égypte est tombée alors entre les mains des Romains. Je ravagerai le pays et ce qu'il renferme par la main des étrangers. L'Égypte est tombée sous la main d'étrangers et les canaux se sont remplis de dépôts de sédiments. Voici maintenant une autre prophétie remarquable, verset 13. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, j'anéantirai les idoles et j'ôterai de neuf les vains simulacres. Il n'y aura plus de prince du pays d'Égypte et je répandrai la terreur dans le pays d'Égypte. J'anéantirai les idoles et j'ôterai de neuf les vains simulacres. Neuf était le nom hébreu de Memphis. Au temps d'Ézéchiel, cette ville était riche et florissante. On y trouvait de nombreuses idoles ainsi que les pyramides et le sphinx. Dieu a dit qu'il ôterait les idoles de Memphis. La ville se mit à décliner au profit d'Alexandrie pendant la période de l'Égypte helléniste. Au Moyen Âge, on a utilisé les matériaux des ruines de la ville pour construire le Caire. Aujourd'hui, il ne reste presque plus rien de Memphis. Il n'y aura plus de prince du pays d'Égypte. La lignée royale s'est éteinte. Depuis, l'Égypte a toujours été plus ou moins assujettie à d'autres empires. Verset 15. Je répandrai ma fureur sur Sin, la forteresse de l'Égypte, et j'exterminerai la multitude de Nô. Je répandrai ma fureur sur Sin, cette ville se trouve maintenant sous le sable, et j'exterminerai la multitude de Nô, Nô étant fait la ville de Thèbes, qui a longtemps été la capitale de l'Égypte. Les ruines de la ville existent toujours, mais elle n'est plus une grande ville puissante. Dans les versets suivants, Ézéchiel mentionne d'autres villes importantes de l'Égypte que Dieu jugera. Versets 16 à 19. Je mettrai le feu dans l'Égypte. Sin sera saisie d'angoisse, Nô sera ouverte par la brèche, et Neph conquise en plein jour par les ennemis. Les jeunes hommes, Don et de Pibeset, tomberont par l'épée, et ces villes iront en captivité. À Tachpanès, le jour s'obscurcira, quand j'y briserai le joug de l'Éternel et que l'orgueil de sa force y prendra fin. Un nuage couvrira Tachpanès, et ses filles iront en captivité. « J'exercerai mes jugements sur l'Égypte, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Dieu agit de façon à démontrer sa gloire et à être glorifié. Dieu se révèle par ses jugements. Dieu agit de façon à ce que les nations environnant Israël sachent qu'il était l'Éternel. Israël s'était détourné de Dieu, et en faisant cela, ternissait le nom de Dieu. En châtiant Israël et les nations avoisinantes qui combattaient son peuple, ou sur lesquels son peuple s'appuyait, Dieu démontre qu'il est le Dieu tout-puissant qui gouverne l'univers. Dieu agit de façon à démontrer sa gloire et à être glorifié. Versets 21 et 22. Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon, roi d'Égypte, et voici, on ne l'a point pansé pour le guérir. On ne l'a point enveloppé d'un bandage pour le lier et le raffermir, afin qu'il puisse manier l'épée. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à Pharaon, roi d'Égypte, et je lui romprai les bras. Celui qui est en bon état et celui qui est cassé, et je ferai tomber l'épée de sa main. Dieu confirme la chute de l'Égypte. Les images des rois d'Égypte les représentent en tenant un sceptre dans leurs mains. Ce sceptre représentait leur pouvoir. Dieu dit qu'il a cassé le bras de Pharaon. Il est très difficile de tenir un sceptre avec un bras cassé. Dieu dit que le bras de Pharaon ne sera pas soigné. Babylone va conquérir l'Égypte et Pharaon sera impuissant et il ne pourra pas arrêter l'envahisseur. Toutes ces prédictions se sont accomplies littéralement. Mes amis, Dieu avait fait beaucoup de bien à Israël. Il a libéré ce peuple de l'esclavage en Égypte. Il lui a donné un pays et il a combattu avec son peuple afin que celui-ci puisse le conquérir. Il a donné des lois à son peuple, de bonnes lois afin qu'il puisse vivre paisiblement dans la justice. Cependant, le peuple a rejeté la grâce de Dieu. Lorsqu'il a eu des ennuis, il s'est appuyé sur des pays voisins. Ce soutien n'a pas été efficace, mes amis. Il en est de même pour nous. Dieu nous a donné la vie, il nous a donné des biens, il nous a donné sa loi et les termes d'une nouvelle alliance. Nous les trouvons dans la Bible. Il a fait tout cela pour notre bien. Il a envoyé son Fils, qui s'est offert en sacrifice pour nos péchés, afin que nous puissions recevoir gratuitement le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Faisons-nous comme Israël? Essayons-nous de diriger notre vie en nous appuyant sur les principes du monde plutôt que sur Dieu? Ternissons-nous le nom de notre Dieu et de notre Sauveur en nous tournant vers le soutien instable et décevant des hommes? Ternissons-nous son nom en fonctionnant selon les principes du monde, les principes de ses ennemis, plutôt que ceux de sa parole, la Bible. Dieu nous a sauvés gratuitement au moyen de la foi en Jésus-Christ. Maintenant, il demande que nous marchions par la foi, que nous lui fassions confiance. Ce qu'il a fait à Israël, il peut nous le faire individuellement. Il va nous ôter tout ce qui prend sa place dans notre vie. Il fait cela parce qu'il nous aime et parce qu'il nous propose ce qu'il y a de mieux. Il veut que nous sachions qu'il est Dieu. Mes amis, y a-t-il quelque chose qui est plus important que Dieu dans votre vie présentement? Vous appuyez-vous sur quelqu'un d'autre que lui ou sur autre chose que lui pour réussir dans la vie? Si la réponse est oui, pour votre bien, Dieu vous retirera votre soutien. Mes amis, faites confiance à celui qui a déjà donné son Fils unique afin que vous soyez justifiés et que vous ayez la vie éternelle. C'est un don de Dieu. C'est gratuit. Recevez le Fils comme sauveur personnel et marchez par la foi en lui et par le feu même, vous bénéficierez de ses bienfaits, de sa bonté, de sa fidélité, de sa puissance, de tous ses attributs de l'être qu'il est, il sera présent en vous par son Saint-Esprit. Oui, il fera sa demeure en vous et vous pourrez bénéficier de sa présence en tout temps. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Ézéchiel, les chapitres 31 et 32.
Merci, Régent. Mes amis, on a pu voir aujourd'hui à quel point Dieu nous aime, n'est-ce pas? Régent a mentionné que Dieu nous avait donné la vie et des biens, et qu'il nous avait aussi donné sa loi et les termes d'une nouvelle alliance. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut connaître ses lois et ses termes en lisant la Bible. Donc, on n'a pas d'excuses. On ne pourra pas dire un jour « je ne savais pas ». Et Dieu a réellement mis le comble à son amour en envoyant son Fils, qui s'est offert en sacrifice pour nos péchés, afin qu'on puisse recevoir gratuitement le pardon de nos péchés puis la vie éternelle. Quel Dieu merveilleux! S'il nous avait laissés à nous-mêmes, pas un seul d'entre nous aurait pu trouver le chemin du ciel, puisqu'on est tous des pécheurs. Paul nous le dit dans le 3e chapitre de son épître aux Romains au verset 23. « Oh, mes amis, j'aimerais me joindre à Régent pour vous demander s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est plus important que Dieu dans votre vie. Si vous êtes chrétien, je veux vous encourager à vous repentir, à demander pardon à Dieu qui est fidèle et juste pour vous pardonner. C'est ce qu'il nous dit dans la première épître de Jean au chapitre 1, verset 9. Ça va comme ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et il nous donne un bon avertissement au verset suivant. Il dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Et toi, mon ami, toi qui nous écoutes régulièrement et qui n'as pas encore reçu le don gratuit de la vie éternelle, l'assurance que le jour où tu mourras, tu iras au ciel pour vivre avec Dieu éternellement, eh bien ce message est pour toi aussi. Tu dois reconnaître que tu es un pécheur, une pécheresse perdue. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 18, verset 11, il est écrit que le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Mon ami, j'étais perdu. Je l'ai été pendant 30 ans de ma vie. Mais un jour, quelqu'un m'a annoncé la bonne nouvelle du salut par grâce. Une grâce, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Je me suis donc reconnu coupable devant Dieu. Je lui ai demandé pardon pour mes péchés. Et j'ai demandé au Seigneur Jésus de me sauver, parce que je reconnaissais qu'il est le Fils de Dieu, Dieu fait homme pour sauver les pécheurs. J'ai réalisé que c'était pour moi qu'il avait souffert et qu'il était mort sur la croix. Et j'ai placé ma confiance en Jésus seul pour le pardon de mes péchés. Alors, mon ami, ce dont je te parle, ce n'est pas de la science-fiction. C'est un cadeau que Dieu t'offre à toi aussi. Tu n'as qu'à reconnaître que tu es un pécheur, une pécheresse. En ce moment même, demande sincèrement pardon à Dieu. Repens-toi, c'est-à-dire détourne-toi du péché. Et détourne-toi de ta manière de penser. Adopte celle de Dieu. Maintenant, si tu crois que Jésus est Dieu lui-même qui s'est fait chair pour venir prendre notre condamnation sur lui en mourant sur la croix, eh bien, tout ce que tu as à faire, c'est de lui demander de te sauver et de te donner la vie éternelle. Ouvre la porte de ton cœur maintenant. Jésus est à la porte, puis il frappe, puis il te le dit. Si tu entends ma voix, si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi et toi avec moi. Ça veut dire qu'il va être intime avec toi. Il n'y aura plus rien entre toi et lui. Tu vas pouvoir communier avec lui, vivre des joies extraordinaires dans la présence de Dieu.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre, aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, bien c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle.
Pour nous rejoindre, au téléphone...
1-877-LESPOIR 1-877-537-7647 ou à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.